l'intermédiaire aussi de vos professeurs, qui était la situation des populations qu'on appelle Roms ou parfois Tziganes en Europe aujourd'hui, en Europe et en France. Alors ce sera mon point de départ, je vais vraiment partir de là pour qu'on parte tout de suite d'un exemple concret, des débats qui suscitent actuellement. Et ensuite mon fil conducteur, c'est-à-dire les points de repère que je vais vous apporter, ce que je vais vous apporter de mon point de vue de philosophe, hein, qui ne sera pas celui d'un historien ou sociologue, mais d'un philosophe qui réfléchit sur les grands concepts qui nous aident à débattre et à argumenter. Ce fil conducteur, ce sera donc, que vous voyez inscrit ici, identité au pluriel et communautarisme. Alors, je vais partir de deux images que je vous projette ici, que j'ai choisies comme toile de fond de notre début de séance. Le but, c'est qu'à l'arrivée, peut-être je vous les remontrerai à la fin, on les prenne aussi, éventuellement ces images, et puis aussi, évidemment, les concepts que je vais vous donner pendant cette conférence, qu'on les prenne pour point de départ d'un débat que j'espère nourri, vif et surtout très libre. C'est-à-dire que tout au long de ces premières 45 minutes, là, ou demi-heure de présentation, je voudrais que vous commenciez à penser aux questions, aux idées que ça va susciter en vous, puisqu'après je vous laisserai largement la parole, on a un micro qui circule, hein, donc qui sera pour que vous puissiez rebondir, me poser des questions, et puis discuter même aussi entre vous, hein, profiter de ce forum là qu'on a ouvert aujourd'hui sur ce thème. Alors, je vais commencer par juste vous dire que ces images, elles ont un titre d'abord, il y en a une. Celle qui est à droite, c'est une œuvre d'art qui est donc exposée dans un musée qui s'appelle Les Touristes. C'est une série de sculptures touristes. C'est la deuxième de la série. Elle date de 1988. Elle est faite de matériaux composites d'une artiste qui s'appelle Duane Hanson. Et puis à gauche, vous avez, alors j'ai volontairement mis côte à côte, une image qui est, elle, extraite, c'est une coupure de presse d'un journal, qui est un journal français, dans une édition locale de Seine-Saint-Denis qui, en juillet 2010, représentait, donc sur cette photo, je vous lis rapidement la légende en dessous, une quarantaine de Roms, dont de nombreux enfants, ont été expulsés de leur campement installé dans les bois. Je vous lis simplement pour que vous puissiez le lire pour ceux qui sont le plus loin. Alors j'ai mis face à face de façon volontairement un tout petit peu provocatrice, ces deux images qui représentent deux populations en apparence très différentes, très éloignées dans leur mode de vie, et qui pourtant ont un petit point commun, c'est que ce sont, telles qu'elles nous sont représentées ici, des populations en déplacement. Les touristes d'un côté, donc nous tous, quand nous nous retrouvons avec nos bagages à la sortie de l'aéroport, dans un paysage nouveau, et puis d'un autre côté, donc à votre gauche, cette population qu'on appelle Roms, qui est présentée ici dans un article. Alors je vous en montre le titre complet, tel qu'il était présenté dans ce journal. Alors, je voudrais d'abord revenir, puisque c'est ce qu'on m'avait proposé comme point de départ, hein, de la part de votre équipe pédagogique, de vos professeurs, revenir sur les appellations qu'on utilise pour désigner cette population. Trois termes, Roms, Tziganes et gens du voyage. Je vais vous donner quelques points de repère ici, sans entrer dans beaucoup de détails, mais que quand même on sache un tout petit peu de qui on parle, et puis pourquoi est-ce qu'on a plusieurs noms. Il y en a encore d'autres noms, mais je voudrais ici retenir ces trois-là. Alors le premier, le terme de Roms, on peut l'associer à une date, même si le mot existe auparavant, cette date c'est 1971, et cette date elle marque pour cette population la naissance d'une communauté unifiée, hein, au sens politique, une communauté à l'échelle internationale. Et ça, c'est pas quelque chose de fréquent, de voir une communauté s'auto-baptiser, hein, et à l'échelle en plus d'une multitude de pays à l'échelle internationale. C'est la naissance d'un congrès mondial, des associations Roms, au-delà des frontières des différents pays où se trouvent vivre ces populations. Alors, parmi ces Roms qui s'auto-baptisent de cette façon en 1971, on trouve des populations qui par ailleurs donc se désignent plutôt comme Tziganes parfois, comme Manouches, parfois également comme Gitans ou Sinti. Mais ce terme-ci, il marque de façon forte, de façon symbolique, une volonté politique à un moment donné d'une population très très composite et diversifiée de s'unifier pour être représentée dans des instances internationales. pour avoir une visibilité politique auprès, alors à la fois des États, mais aussi des instances internationales. C'est aussi une volonté, la même volonté qui a présidé à l'adoption d'un drapeau que je vous présente ici, donc un drapeau composé de deux bandes horizontales, l'une bleue et l'autre verte, et en son centre une roue rouge. Et c'est donc de la même façon une volonté de se donner, comme les États qui ont chacun leur drapeau, leurs hymnes, leurs devises et évidemment leurs noms, de se donner des symboles qui facilitent cette représentativité à l'échelle internationale. Alors les deux autres termes, ils sont intéressants puisque celui de Zigane, il est retenu en France par exemple par l'Union française des associations tziganes. Autrement dit, c'est aussi un terme qui est utilisé par ces populations elles-mêmes pour se présenter. Simplement, il l'est dans certains pays, dont la France, mais pas dans d'autres. Dans certains pays, dans d'autres pays que le nôtre, le terme de Zigane est associé à des moments de l'histoire de ces pays où justement on utilisait ce mot pour exclure, provoquer une ségrégation vis-à-vis de ces populations. Alors ce n'est pas le cas en France, et les associations, l'Union française des associations tziganes conserve ce nom, puisque ça reste dans notre pays une réalité sociologique, que ces populations se désignent également sous ce terme. Et puis il y a un troisième mot, alors celui-là, la différence des deux premiers, c'est un terme, on va dire, administratif, qui est utilisé par l'État français, qu'on trouve dans les textes depuis le début des années 70, c'est le terme de « gens du voyage ». Alors ici, comme je le ferai à la fin, je vais me référer en particulier à des ouvrages, des travaux, en particulier d'un chercheur, sociologue français, Jean-Pierre Liégeois. Je vous projetterai le titre d'un de ses ouvrages à la fin, pour que, au-delà de ce que moi je peux vous apporter, qui est plutôt des points de repère philosophiques, vous puissiez avoir aussi la possibilité de chercher, peut-être accompagné par vos professeurs de sciences économiques et sociales, dans des textes qui plus précisément s'intéressent à cette terminologie, au sens que ça a de se donner un nom, collectivement, celui de Rome par exemple, ou bien de se voir attribuer une catégorie, celle de gens du voyage. Et je vais juste donc vous dire un mot, ici directement inspiré des travaux et des réflexions de ce sociologue, Jean-Pierre Liégeois, qui a travaillé sur la question donc Rome et Tzigane en France et en Europe. Et ce qu'il fait remarquer, c'est une chose très simple, mais on n'y pense pas tellement cette expression est utilisée souvent. Il fait remarquer que, d'abord, un gens du voyage, ça ne se dit pas. Donc c'est une expression qui, par définition, est plurielle. On ne va jamais employer le mot « un gens ». C'est une expression qui ne s'emploie qu'au pluriel. Et même au pluriel, il fait remarquer une deuxième chose intéressante, qui est qu'on ne dira pas non plus deux ou trois gens, on emploie plutôt dans ce cas-là le terme d'individu ou de personne qu'on écrit au pluriel. Le terme « gens », il désigne un pluriel non dénombrable, une masse, un amalgame. Et il est intéressant à ce titre de le comparer à ces deux autres expressions, d'abord parce que ce terme de gens du voyage, il est choisi par un État, et c'est l'État français, pour désigner une population, et non pas par cette population elle-même. C'est un terme en ce sens administratif, et non pas sociologique ou politique. Et puis ensuite, il est vraiment intéressant de voir que ce terme utilisé par l'État français, il est inutilisable au singulier, et il est aussi inutilisable pour désigner un certain nombre de personnes. Donc il ne peut désigner qu'un amalgame dans notre usage courant de la langue. Alors ce que je voulais faire pour commencer, c'est justement essayer de désamalgamer un petit peu ce bloc qu'on se représente de façon souvent assez confuse sous le terme des gens du voyage ou des Roms et des Tziganes, et vous donner donc ces quelques éléments de repère. Alors, si donc je vous avais invité en commençant à comparer ces deux images, c'est que, effectivement, l'une des représentations les plus couramment attachées à ces populations, c'est qu'elles sont en déplacement et que le plus souvent, quand on les aperçoit, disons, dans les représentations courantes, dans ce qu'on entend dire actuellement, dans deux types d'endroits, soit des campements, donc on les associe à l'image de caravanes, à la bordure de villes, petites villes, voire villages. Soit aussi parfois on les associe à l'image de personnes que l'on peut voir dans les transports publics et qui donc sont constamment en déplacement ou alors dans des installations provisoires. Et ce que je vous invitais à faire, c'est donc dans la suite de cette présentation, réfléchir au sens que ça a de d'opposer, de distinguer ou de comparer nos modes de déplacement et sédentarité à nous, et puis les modes de vie, de déplacement, mais aussi les modes d'existence collective de ces populations qu'on appelle Roms, Tziganes, ou, selon l'État français, gens du voyage. Alors, je voudrais pour ça qu'on prenne un petit peu de recul par rapport à nos villages, nos villes et même notre pays, et qu'on se situe à une échelle plus large qui soit celle de l'Europe. Et là, sur la carte que je vous projette, c'est l'Europe des 27, hein, donc l'Union européenne actuelle, qui ressort ici en jaune, qu'on se situe à cette échelle et qu'on se rende compte d'abord, alors pour employer un chiffre ici, qui est l'approximation que l'on a aujourd'hui, qu'il y a 10 à 12 millions de Roms en Europe. Et donc je vais retenir ce terme de Roms, hein, pour ma part, là, dans la suite de cette conférence, puisque c'est celui qui est le plus largement utilisé par ces populations elles-mêmes pour se désigner. Et je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des débats à l'intérieur de ces groupes, de ces populations, sur cette appellation, mais comme c'est celui qui est le plus utilisé par ces populations elles-mêmes, je vais le retenir. Donc 10 à 12 millions de Roms. Et alors là, je vais poser une question qui est directement une question qui intéresse la philosophie politique et juridique, mais aussi donc les sciences sociales. C'est de savoir sur quel fondement ces populations reçoivent ou pas des droits. Quels sont leurs droits à ces populations et aux individus qui les composent. Donc pour essayer de désamalgamer, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette catégorie des gens du voyage, je voudrais qu'on essaie de voir à quelles échelles est-ce qu'on leur attribue des droits. Donc en prenant un peu de recul, premièrement, je voudrais ici vous rappeler que comme eux, donc et eux comme vous, vous avez des droits de citoyens européens, et eux comme vous, vous avez donc, je vais ici vous les rappeler, en particulier, c'est ici le premier, ça, ce type de liste de droits, vous la retrouverez sur tous les sites des institutions européennes. En premier lieu, un droit de liberté, une liberté de circulation, de résidence, d'études et de travail dans les États membres de l'Union européenne. Et je l'ai souligné ici en rouge parce que c'est un des aspects sur lesquels on va le plus discuter ici pour commencer, étant donné qu'on parle d'une population qu'on perçoit comme en déplacement de pays en pays et à l'intérieur d'un pays, de ville en ville. Donc premier droit, droit des citoyens européens. Et ces Roms, les populations Roms étant ressortissantes d'États membres de l'Union européenne en grande, très grande partie, étant citoyens de ces États membres, elles disposent des mêmes droits que vous, donc à circuler, résider, étudier et travailler dans les États membres de cette Union dont fait partie votre pays aussi, à vous, le nôtre, je m'inclus dedans, dont fait partie la France. Alors je vous lis rapidement les autres intitulés, c'est important pour nous là qu'on se rende compte qu'on parle d'une réalité juridique qu'on partage avec ces populations, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et aux élections du Parlement européen dans l'État membre de résidence, le droit de protection diplomatique, le droit de pétition auprès du Parlement européen qui permet à tous les citoyens d'alerter l'institution qu'ils élisent au suffrage universel, et le droit de plainte auprès du médiateur européen, le droit d'écrire à une institution de l'Union et de recevoir une réponse, et enfin l'ouverture partielle des fonctions publiques nationales aux ressortissants des autres États membres de l'Union européenne, pour les fonctions qui ne mettent pas en jeu la souveraineté des États. Alors je voulais vous la lire en entier, pour pas vous couper une partie de la liste, mais retenez en particulier que le premier de ces droits, c'est donc cette liberté de circulation, de résidence, d'études, et de travail dans les États membres de l'Union. Alors, je voudrais maintenant qu'on en vienne à un deuxième type de droit, avant ensuite de vous donner des points de repère philosophiques, un deuxième type de droit qui est beaucoup plus spécifique et sur lequel portent en grande partie les discussions qui m'intéressent du point de vue philosophique et sur lesquelles aussi je voudrais qu'après on puisse nous discuter, débattre. Alors, il y a un deuxième type de droit qu'on trouve par exemple dans une recommandation du comité des ministres aux États membres qui date de 2000, donc une institution européenne dans laquelle sont représentés les ministres de l'Union européenne, une recommandation qui porte sur un sujet qui nous intéresse ici parce qu'on est dans un lycée, qui est l'éducation. Alors je vous lis un extrait de cette recommandation et ça nous amène vers un deuxième type de droit qui est recommandé ici à l'échelle européenne. Je vous lis, les mesures éducatives en faveur des enfants roms et tziganes devraient s'inscrire, dit cette recommandation, dans le cadre de politiques interculturelles plus larges et tenir compte des caractéristiques de la culture romanie et de la position défavorisée de nombreux roms et tziganes dans les États membres. Donc, premier changement ici, il s'agirait plus de droits universellement appliqués à tous les citoyens, mais de droits plus spécifiques. Et j'aimerais après vous indiquer quels sont ici les enjeux d'un débat sur des droits universellement applicables à un ensemble de citoyens, ici d'une union d'États, et des droits spécifiques qui viseraient plutôt une minorité, ici donc celle des Roms ou Tziganes. Alors pour continuer dans la même lignée, on remonte un tout petit peu ici. Cette recommandation de 2000, elle s'appuie sur un texte important qui date de 1989. C'est une résolution du Conseil des ministres de l'Éducation de la Communauté européenne et on retrouve la même inspiration. Alors premièrement, on trouve dans ce texte ceci, je vous le lis. On a donc une institution internationale qui affirme ceci. La culture et la langue des Roms, tziganes, font partie depuis plus d'un demi-millénaire du patrimoine culturel et linguistique de la communauté. Alors ici avec un C majuscule, donc ce qui à l'époque s'appelle la communauté européenne et maintenant l'Union européenne. Et de ceci, le texte de 1989 tire notamment cet objectif. Le but de cette résolution est le suivant, développer une démarche globale et structurelle contribuant à vaincre les obstacles majeurs qui freinent l'accès à l'école des enfants de Roms et tziganes. Donc on voit se dessiner à partir de 1989 jusqu'à aujourd'hui, donc dans des résolutions et recommandations plus récentes, une volonté politique de la part des institutions de l'Union de permettre une forme pas seulement de reconnaissance, mais aussi d'appui, d'aide, de soutien spécifique à cette minorité, donc des Roms et des tziganes. Et puis, dernier texte, ce sera le dernier extrait de texte juridique que je vous citerai. En 1995, une convention cadre a été adoptée pour la protection des minorités nationales. Vous voyez se dessiner ici un des grands thèmes là, de notre débat, j'espère, et puis de la suite de ma conférence, qui est donc la question de la représentativité des communautés à l'échelle d'un État et d'une union d'États. Alors voilà ce que dit ce texte, je vais vous lire juste les sections en rouge ici. Les parties, c'est-à-dire les États signataires, s'engagent à garantir à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit à l'égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. Dans la deuxième partie de cet article 4 du titre 2, les parties s'engagent à adopter, s'il y a lieu, des mesures adéquates en vue de promouvoir dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle une égalité pleine et effective entre les personnes appartenant à une minorité nationale et celles appartenant à la majorité. Elles tiennent dûment compte, les États devront tenir dûment compte à cet égard des conditions spécifiques des personnes appartenant à des minorités nationales. Et troisièmement, dans le troisième point de cet article 4, les mesures adoptées conformément au paragraphe 2, ce que je viens de vous lire, ne sont pas considérées comme un acte de discrimination. Donc il s'agit ici d'un texte cadre qui, à l'échelle de l'Union européenne, entend fixer, encourager et fixer les conditions d'une politique d'aide aux minorités nationales, ce qu'on appelle donc les minorités nationales, en définissant clairement ce type de soutien et d'aide comme différent d'une discrimination. Alors, je souligne que parmi les 27 pays de l'Union européenne, il y en a un qui n'a pas signé cette convention. Donc, convention 4 qui date de 1995 pour la protection des minorités nationales. Celle dont je viens vous lire trois extraits, donc ce pays, c'est le nôtre, la France. Alors, ça c'est intéressant puisque ça va me servir de point de départ pour une question que je vais poser très très simplement, qui est la suivante. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, et alors ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ce mot donc de communautarisme, qui symbolise assez bien tout l'enjeu de cette discussion sur la reconnaissance et le soutien aux minorités nationales, pourquoi est-ce que ce mot de communautarisme fait peur. Et plus que ça même en France, pourquoi est-ce qu'il est considéré en général dans le débat public comme quasiment une insulte ou en tout cas un reproche toujours adressé à un adversaire? Et alors si vraiment vous êtes attentif actuellement à ce qui m'a servi de point de départ, là, au débat dans votre pays sur la situation des Roms, vous avez remarqué que c'est un mot qu'emploient aussi bien les partisans que les adversaires de la politique actuelle menée par l'État français à l'égard des populations roms. C'est un mot qu'on utilise de part et d'autre pour désigner ce que fait l'adversaire. Et du coup, si un matin vous écoutez un bulletin d'information sur ce sujet en ce moment, vous allez avoir l'esprit un peu confus en en ressortant, puisque vous aurez entendu parler de communautarisme en mal, ça c'est sûr, mais d'un côté comme de l'autre. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les usages politiques actuels de ce mot. Ce que je voudrais faire, c'est entrer un tout petit peu plus dans la signification de ce terme, essayer de se demander peut-être pourquoi il fait peur, mais surtout essayer de voir en quel sens on peut lui donner, en laissant de côté un instant nos peurs, les débats les plus brûlants, en prenant un petit peu de recul, et c'est justement à ça que sert la philosophie, c'est-à-dire à donner un peu de recul et des points de repère pour ensuite revenir dans le débat. Alors, le mot de communautarisme, il vient d'un autre qui est donc communauté. Je vais repartir de très simple. Une communauté, c'est quoi? C'est quelque chose que nous avons en commun ou que nous faisons en commun. Et du coup, question, parce que ça ne suffit pas, c'est quand même beaucoup trop court pour nous aider à le définir. Qu'est-ce qui constitue une communauté? Autrement dit, qu'est-ce que nous faisons en commun qui fait que nous formons une communauté? Qu'est-ce que nous avons en commun qui fait que nous formons une communauté? Alors, ce qui constitue une communauté, ça peut être plusieurs choses. Et là, peut-être, j'aimerais bien, si j'en oublie, vous me direz peut-être que j'ai oublié ceci ou cela, je vais vous donner les principaux traits qu'on attache à cette notion de communauté. Vous penserez peut-être à d'autres aspects. Ça peut être une langue commune. Dans le cas des populations roms, il y a une langue, le romani, qui sert de lien communautaire, on pourrait le dire comme ça, à une grande partie de ces peuples qu'on désigne donc sous le nom et qui se désignent sous le nom de peuple rom. On sait que c'est une langue qui a une tradition non scripturale, non écrite, mais ça forme bien, pour autant, un lien linguistique entre divers individus et aussi divers groupes sociaux. Ça peut être des valeurs communes. On peut constituer, on peut identifier une communauté, un nous. Des gens peuvent s'identifier à un nous, à une communauté, à partir de valeurs communes comme l'attachement à la liberté, valeur abstraite, mais aussi à des valeurs plus enracinées dans tel ou tel particularisme. Ça peut être une mémoire commune, donc un lien à travers le temps avec des gens qui ne sont plus vivants, mais dont on perpétue le souvenir, avec des événements dont on perpétue le souvenir, des événements fondateurs. Ça peut être donc un ensemble de choses héritées du passé, et également un attachement, quatrième point ici, un attachement à un espace, un territoire commun. Alors, même chose si donc l'exemple que j'ai pris pour point de départ continue à résonner dans vos têtes, vous sentez bien que cette question du territoire, par exemple, elle est au centre des, pas seulement des débats, mais aussi des tensions actuelles autour de la situation des Roms en Europe. Il y a une vision du territoire qui ne se fait pas à la même échelle, et si moi j'ai souhaité vous montrer une carte de l'Europe tout de suite, et pas seulement de nos villes, villages et même de notre pays, c'était pour vous indiquer que la problématique ici de la situation des Roms, elle se situe à une plus large échelle qu'à celle de nos territoires de vie quotidienne à nous. Donc un territoire, des valeurs, une langue ou une mémoire commune. Alors je vais faire trois remarques avant donc de vous indiquer pourquoi il y a débat et comment on peut essayer de se situer dans ces débats. Première remarque assez simple, c'est que la plupart des communautés entretiennent des relations pacifiques avec les autres communautés. C'est pas parce qu'il y a communauté qu'il y a guerre ou même conflit ou même adversité. Donc première remarque, c'est pas parce qu'il y a nous et eux qu'il y a forcément une guerre, un conflit ou une adversité entre nous et eux. Une diversité ne signifie pas forcément un conflit. Deuxième remarque, la plupart d'entre nous, donc là si maintenant on se place du point de vue individuel, des individus, la plupart des individus appartiennent à plusieurs communautés. Là, pensez un instant à vous-même, commencez à faire une liste, mais spontanée, hein, de ce qui vous vient à l'esprit. Vous pouvez à la fois, donc je le dis, voilà, par exemple pour moi, vous considérez comme français, donc si on pense à une communauté nationale, mais aussi parisien, mais aussi philosophe, et ça me donne des attaches, par exemple, dans trois communautés qui, dont deux se recoupent, mais dont la troisième n'a pas forcément de lien, en tout cas dans mon esprit à moi, avec le fait d'être français. Bon. Le fait d'être philosophe, ça ne me rattache pas particulièrement, ou pas seulement en tout cas, aux philosophes français et à la France. Bon. Et puis de la même façon pour vous, à travers les groupes dont vous faites partie, vous pouvez vous rendre compte donc que l'appartenance à plusieurs communautés est quelque chose de courant et qui ne donne pas forcément lieu en vous à des conflits internes. Et dernière remarque, et alors là vraiment fondamentale, c'est que je ne pense pas qu'on puisse construire une identité personnelle, devenir un sujet, sans se reconnaître, se chercher, parfois changer, choisir ou pas, mais avoir des appartenances communautaires, c'est-à-dire appartenir à des groupes. Hein, autrement dit, alors là, c'est une proposition philosophique, hein, au sens où elle est ouverte au débat, et vous pouvez tout à fait trouver sûrement des arguments qui pourraient m'obliger à nuancer un peu ce que je dis, mais en tout cas, là, je veux partir de cette idée dans la suite du débat qu'il semble difficile de pouvoir dire « je » sans dire en même temps « nous », sans reconnaître que quand je dis « je », que « je suis » français par exemple, j'affirme en même temps une appartenance à une communauté, à un « nous ». Donc pour vraiment symboliser ça, je vous montre ici donc à l'image, hein, je vous redis, l'idée que je voudrais prendre pour point de départ du débat, c'est que on peut pas vraiment séparer ces deux questions. Qui suis-je et qui sommes-nous? Alors, pour élargir un petit peu d'ailleurs au-delà de la question de la situation des Roms et puis vous permettre de vous projeter un petit peu plus directement dans ces débats, qui sommes-nous? Les réponses à cette question, elles sont très très diverses. Nous pouvons être de la même famille. Nous pouvons être amis ou pas. Nous pouvons être concitoyens ou pas. Nous pouvons être originaires d'un même pays, alors directement ou à travers, comme je le disais tout à l'heure, une mémoire ou une histoire familiale, ou pas. Nous pouvons être habitants d'une même ville, d'un même village, dans le village ou la ville d'un quartier, dans le quartier d'une rue, dans la rue d'un immeuble. Donc toutes ces subdivisions, on les retrouve au niveau spatial ici. Évidemment qu'elle se multiplie, peut-être pas à l'infini, mais elle se multiplie. À chaque fois que vous désignez ici un territoire, on peut encore le diviser en général en une série de sous-ensembles, comme la ville, le quartier, la rue ou le bâtiment. Croyant en un même Dieu ou pas, athée ou pas, religieux ou pas, pratiquant ou pas, d'une même religion. Et puis, supporter d'un même club ou pas. Alors là, la question... Par exemple, si on recoupe, amusez-vous à recouper deux de ces éléments, si on encadre habitants d'une même ville et supporters d'un même club, on peut ici s'amuser à retrouver les villes dans lesquelles, par exemple, il ne va pas du tout de soi de se reconnaître dans le même club, même si on vit dans la même ville, c'est le cas à Rome en Italie, où deux clubs rivaux, depuis le début du XXe siècle, se disputent, alors vraiment férocement, les championnats, les derbies locaux, la Lazio et la Roma, qui toutes les deux, tous ces deux clubs, empruntent à l'histoire romaine, mais alors la plus lointaine, à l'histoire de l'Empire romain, leurs emblèmes. L'un de ces deux clubs a pour emblème l'aigle impérial et l'autre la louve romaine, qui est l'un des symboles de la fondation de la ville de Rome, un des symboles mythologiques de la fondation de la ville. Donc un même territoire ne veut pas dire forcément, dans le domaine du foot ici, un même club. Et puis, pour prendre le même point de départ, celui du territoire, il y a, par exemple, deux exemples de villes, si on sort là de l'Italie et de Rome, deux exemples de villes, aujourd'hui, dans le monde, dans lesquelles on peut habiter dans la même ville et ne pas parler la même langue, et où les communautés linguistiques se répartissent par quartier. Il y en a une pas très loin de nous, qui est Bruxelles, et puis une autre un peu plus loin, sur un autre continent, qui est Montréal, et dans laquelle le quartier des francophones et celui des anglophones sont assez nettement délimités. Même s'il n'y a aucune barrière réelle, il y a réellement un partage de l'espace entre deux communautés linguistiques. Alors, ces deux questions, donc celle de l'appartenance et celle de l'identité personnelle, ben, un des présupposés, mais que bon, moi je vous annonce clairement, hein, même si on pourra en discuter, mais un des présupposés de ma présentation, et puis des recherches, des réflexions que j'ai sur ce sujet, c'est qu'on peut, jamais entièrement les séparer. C'est très difficile de savoir qui je suis sans se demander aussi à quel moment je m'identifie à un nous, à une communauté, à un collectif. Que ce soit un club, que ce soit un pays, un État ou un groupe d'amis. Tous ces exemples sont aussi importants les uns que les autres. Alors, je voudrais ici, en particulier, j'ai encadré un de ces termes, celui de concitoyen, vous donner des points de repère pour une question qui, à vrai dire, est quand même plus essentielle, je pense, pour vos vies à long terme que celle de savoir à quel club de foot vous allez donner votre cotisation ou duquel vous allez acheter votre maillot, même si c'est une passion que je comprends et puis voilà, qui fait partie de la vie. Maintenant, il y a ici une réalité que j'ai évoquée au départ de cette conférence, qui est donc celle, la réalité politique, celle des États, celle des unions d'États et celle de ce qu'on appelle les minorités, qui donne lieu à des débats dont je pense l'enjeu est encore plus fondamental que celui des rivalités entre clubs sportifs. C'est pour ça que je vais revenir ici donc aux questions politiques et essayer de vous donner des points de repère sur une question qui est de savoir quel est le rôle de l'État dans tout ça. Qu'est-ce qu'on appelle un État ? Repenser encore à la situation des populations roms, à la question de savoir quels sont leurs droits dans les États qu'ils traversent, où ils s'installent, d'où ils viennent, où ils vont. Et je voudrais ici donc vous donner quelques repères philosophiques avec trois théories, et ensuite qu'on essaye de voir, de les comparer avec des termes qu'on rencontre dans les débats politiques ou publics actuels, et notamment avec cet usage du mot communautarisme que j'évoquais tout à l'heure. Alors, trois théories. Là, je vous donne ici en rouge trois termes qui sont, alors eux, les termes plus souvent utilisés par les philosophes. Vous voyez, j'ai remplacé communautarisme par communautarien, par honnêteté intellectuelle, parce que c'est le terme que vous allez retrouver le plus souvent dans les textes philosophiques sur ces questions. Maintenant, je ne vais pas me battre ici pour tel adjectif plutôt que tel autre. Si vous voulez employer communautariste ici à gauche à la place de communautarien, vous le pouvez. Je ne vais pas me battre pour les mots. Par contre, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'il y a là quand même trois idées assez différentes. Donc les mots, ils sont bien commodes ici, ils agissent comme des étiquettes. Maintenant, il y a trois idées assez différentes. Une théorie communautarienne, tout d'abord, qui propose ceci. Alors ça, vous en avez eu tout à l'heure un exemple très clair avec les directives européennes que je vous ai citées. Cette théorie en philosophie, donc, elle défend l'idée selon laquelle l'État devrait garantir des droits culturels aux membres de chaque communauté. Alors le mot communauté ici, il résonne avec ce que je vous projetais donc tout à l'heure, ces textes européens dans lesquels on recommande aux États membres de garantir des droits spécifiques aux communautés roms et tziganes, et en particulier pour ce qui est du droit à l'éducation. Et ça prend en philosophie donc cette orientation théorique le nom de théorie communautarienne. Alors avant de revenir à l'une ou à l'autre et d'en discuter avec vous, je vous présente donc une option opposée, différente de celle-là, qu'on appelle libérale pour la raison suivante. Une théorie libérale qui donc défend, elle, l'idée que l'État devrait fixer des règles communes. Son rôle, ça devrait être de fixer des règles communes pour permettre à chaque individu de réaliser ses projets personnels. Et là, dans le projet, vous mettez toute la variété de choses qu'on peut inclure sous ce que je suis libre de faire dès lors que je l'ai décidé, et dès lors donc que l'État m'y autorise, que cela s'inscrit dans les limites des règles fixées par l'État, qui devraient être les mêmes pour tous. Donc, une grande opposition ici, assez classique en philosophie, entre une théorie qui met en avant la valeur d'attachement à la communauté, et que certains philosophes d'aujourd'hui rattachent jusqu'à l'héritage d'Aristote, donc ce philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, et une théorie face à elle, une théorie libérale, qui, elle, met en avant le rôle de l'individu, et qui aujourd'hui prend donc la forme dans le débat entre les philosophes, de cette proposition selon laquelle le rôle de l'État, ce serait de fixer des règles communes pour permettre à chacun de nous de réaliser ses buts personnels. Alors, il y a une tentative aujourd'hui pour former une sorte de synthèse, même si c'est pas exactement le cas, mais essayer de trancher ce débat et de proposer une voie alternative. On l'appelle républicaniste, vous pouvez l'appeler républicaine, ça ne choquera personne, mais c'est le terme qui est un peu plus souvent utilisé par les philosophes pour la désigner. Alors, cette théorie républicaniste, vous pouvez peut-être d'ailleurs le deviner, elle met en avant non pas la communauté, le « nous », sous toutes ses formes, non pas l'individu, le « je » tout seul, mais un terme qui est censé faire le lien entre les deux, que j'ai utilisé tout à l'heure, qui est le point commun, j'ai employé quand je vous ai dit qu'il y a un point commun entre vous tous, nous tous, et puis les populations roms à l'échelle de l'Union européenne, je vous ai dit que nous sommes, nous, moi et vous, et eux, donc nous tous, des citoyens européens. Donc ce terme, c'est celui de citoyen, et la théorie républicaniste, elle propose ceci. Elle affirme que le rôle de l'État, c'est de permettre à chacun de participer à la construction de la communauté politique. Donc ici, on retrouve cette notion de communauté. Ce n'est pas l'individu seul, protégé par des règles communes, à côté d'autres individus. C'est une communauté, mais une communauté particulière, qui est la communauté politique. Le statut de citoyen, dans ce cadre, est conçu comme une protection contre toute forme de domination arbitraire, c'est-à-dire non justifiée. Toute forme de domination qui ne pourrait se justifier devrait donc être ici rejetée. Alors, trois modèles du rôle de l'État, un modèle, on va dire, communautaire ou communautarien, un modèle plus individualiste, mais hein, donc la même chose, hein, tel que je l'emploie ici, pour restituer le sens des débats, le mot individualiste n'est pas plus péjoratif que celui de communautariste. Je veux juste essayer de vous aider à donner un sens à ces mots d'individu, de communauté et de citoyen. Donc une proposition d'inspiration plus communautaire, une autre d'inspiration libérale ou plus individualiste, et puis une troisième d'inspiration républicaniste. Vous savez que ce mot de république, il vient du latin res publica, la chose publique, il désigne donc ce que nous avons en commun, pour autant que nous faisons de la politique ensemble, nous décidons ensemble de notre avenir commun. C'est le sens aussi donc de cette expression, de ce terme de citoyen, tel qu'il est utilisé ici. Alors ces trois théories, pour ici lancer le débat à partir de là, je vous donne ici quelques noms d'auteurs d'aujourd'hui et déjà pour certains d'il y a 2-3 siècles. Pour la théorie communautarienne, deux auteurs, alors américains, nord-américains, états-uniens et canadiens, Michael Walzer et Charles Taylor, qui donc travaillent, écrivent, débattent à partir d'un point de vue qu'on peut qualifier plutôt de communautarien. Pour ce qui est de la théorie libérale, un auteur qui a marqué alors tout le XXe siècle en philosophie politique, qui est John Rawls, qui a transmis un héritage libéral qui remonte au moins à John Locke au XVIIe siècle. Et puis enfin, une théorie républicaniste qui s'illustre alors aujourd'hui à travers les travaux d'un auteur, là aussi américain, états-unien, Philippe Pettit, et qui lui remonte cet héritage, cette tradition républicaniste à Machiavel au XVe siècle, et à sa tentative pour penser la politique à partir des peuples et des hommes eux-mêmes, et non plus à partir de l'autorité divine. Et puis Jean-Jacques Rousseau pour le siècle des Lumières, que vous connaissez pas. Alors à la fois pour ceux qui sont déjà en classe de philosophie, par la philosophie, mais aussi par la littérature. Ici, je l'évoque pour ses œuvres de philosophie politique. Donc c'est l'un des penseurs qui nourrit l'argumentaire de ce courant républicain ou républicaniste qui se prolonge donc jusqu'à aujourd'hui dans les débats de philosophie politique. Alors c'est des débats qui ont été un peu plus vifs et nourris aux États-Unis, c'est pour ça que pour l'instant les références que je vous cite là sont nord-américaines. Il est évidemment très nourri aussi dans de nombreux autres pays, mais c'est un pays dans lequel on n'a pas hésité à se confronter à cette question de la communauté d'une façon un petit peu différente de ce qu'on fait en France, c'est-à-dire sans oublier, qu'il n'y a pas seulement l'individu et l'État, la communauté des citoyens, mais qu'il y a entre moi tout seul et nous tous concitoyens une multiplicité de groupes sociaux qui ont une existence, des normes, qui partagent des valeurs, des territoires, une langue, et qui, pas seulement se côtoient, mais qui participent à la vie collective à leur façon. Et c'est pourquoi, je pense, le débat philosophique a été plus rapidement nourri sur ces questions, aux États-Unis en particulier, au Canada aussi, où ces questions du multiculturalisme et du communautarisme sont abordées de façon beaucoup plus frontale, moins craintive qu'elles ne le sont encore aujourd'hui en France en particulier. Alors, pour lancer notre débat, je voudrais, alors première chose, vous rappeler que le point de départ, qui est en partie aussi du coup mon point d'arrivée, le point de départ de notre discussion, c'était donc cette question de la situation des populations roms. J'ajoute là à mon image de départ celle du drapeau, puisque je vous rappelle que l'esprit du début de ma présentation, c'était de vous montrer d'abord que les termes qu'on utilise sont parfois très amalgamants et qu'il faut veiller à écouter ce que les Roms ont à dire d'eux-mêmes et pour eux-mêmes, savoir qu'ils se sont baptisés, qu'ils ont un congrès mondial, des associations qui s'unissent localement, nationalement ou internationalement, qu'ils ont un drapeau, qu'ils ont une langue, et que donc, tel que le reconnaît et l'affirme l'Union européenne, ils participent depuis plus d'un demi-millénaire à la culture européenne, de la façon donc dont l'affirme cette résolution que je citais tout à l'heure. Et puis l'autre point que je soulignais, c'est que mon intervention ici, ce que je peux vous apporter de plus précis dans le débat aussi, je pense, dans ma réponse à vos questions, elle porte en grande partie sur des notions de philosophie politique. Et pour ce qui est de l'analyse sociologique, je vous renvoie en particulier à un auteur, Jean-Pierre Liégeois, un livre qui est, je pense, assez facile d'accès, dans lequel vous trouverez une analyse beaucoup plus détaillée, une mise en perspective historique, des éléments d'analyse juridique et sociologique, donc, sur la question des Roms et des Tziganes. Jean-Pierre Liégeois, Roms et Tziganes, la découverte 2009. Je vous conseille en particulier, donc, de, si vous revenez à cette question, avec vos professeurs ou pour vous-même, d'aller voir cet ouvrage. Alors, pour lancer le débat, donc, je vous remets sous les yeux là, l'opposition entre ces trois grandes théories. Et puis, je voudrais vous donner la parole sur ce que vous inspire cette opposition entre le « je » et le « nous ». Et puis, comme je l'ai dit, toutes les échelles du « nous » auxquelles nous pouvons nous identifier, toutes les formes d'appartenance communautaire qui participent de diverses façons à votre identité personnelle. Donc, je vais vous donner la parole pour ça. Et je répète, je vais même plutôt vous réafficher un écran un peu plus concret que celui-là, c'est de ça que je voudrais qu'on reparte, c'est-à-dire du lien que vous pouvez faire, vous, entre qui suis-je et qui sommes-nous, et à partir de là, en particulier, d'essayer de voir comment vous vous situez dans ce débat philosophique sur le rôle de l'État. Quel sens ça a pour vous d'être français, d'être européen? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que vous êtes déjà posé la question, en quel sens je suis européen? Qu'est-ce qui me distingue des autres Européens, quel que soit leur mode de vie? Et dans mon pays, dans le pays où je vis, comment je me représente la diversité des groupes sociaux que je côtoie de plus ou moins près, auxquels je participe plus ou moins. Donc je vous donne la parole et puis je répète, le principe c'est celui de la libre circulation. Et dans la mesure de mes possibilités, je répondrai aux questions que vous voudrez poser. Merci.